France Inter.
C'est la bande originale avec Leïla Kadamouda-Dimiza, moitié Rebecca Balestra, Madame Lord. Ça va, mais je fais des exercices. Monsieur Julien Santini.
Bonjour, merci beaucoup.
Paul Delas, Daniel Morin et nos invités Céline Salet et Damien Bonnard.
Leïla Kadour et Nagui.
Depuis début mai, bonjour et bienvenue déjà Céline, Damien. Depuis début mai, on vous retrouve dans la série Malditos, une production originale Max France sur la plateforme Max, une sorte de western, thriller, guerre de clans, Roméo et Juliette un peu aussi.
Dans la communauté gitane.
Exactement. Ça va Damien? Ça vous a repris la muscu des doigts ou pas?
Non, ça va très bien, je n'arrive pas à oublier ouvrir cette bouteille d'eau, mais c'est pas grave.
Ça va.
J'adore. Et Damien voilà. Donne à merci Céline pour, qu'il ouvre, pour qu'elle ouvre sa canette.
Elle l'a prise.
Et Céline vient de mettre un coup de tête dans la canette pour l'ouvrir.
Vous êtes tous les deux chefs de clan dans la série.
Oui, absolument. Ouais.
Chef de clan, et il y a un côté, justement, ouais, c'est un thriller, mais il y a un côté No Limit dans cette série qui est assez palpitante, avec de sublimes paysages de Camargue. On va faire un petit tour quand même pour savoir, je vous demande pas si vous avez un clan, mais que seriez-vous prêt à faire? Border loi, peut-être, ou hors la loi,
tout.
Pour sauver votre famille, votre clan et des amis. Lisa Delmoitié.
Tout, je pense. Oui.
T'es prête à tuer pour protéger quelqu'un de ta famille?
Si c'est une question de vie ou de mort.
Surtout la personne que tu vas tuer.
Ouais je pense.
Ah, okay.
Si ça me semble juste, sauf si.
Ah, ben ça, on saura qu'après, qu'au tribunal.
Je le tiendrai au courant.
Voilà, c'est ça. Rebecca?
Jusqu'à tuer, ça me donnerait une excuse.
Ah, bien. Laura,
tant que ça.
Laura,
moi, c'est un cauchemar que je fais souvent, que je dois cacher un corps, etc. Et bon, donc au point que je me demande si ça m'est pas arrivé.
Est-ce que tu sais quel est le bon copain que tu appelles à 3h du matin en disant j'ai un corps à cacher?
Oui. Non. Okay. Toi.
Non, pas du tout.
Dommage.
J'ai un mode d'avion.
3h du matin.
Je suis occupée.
Non, je suis sur avion surtout. Leïla.
Peut-être bien, ouais. Tuer, ouais, je pense. Enfin, c'est vertigineux comme décision à prendre comme ça. Sur un malentendu, tuer ou tuer de façon préméditée?
Jusqu'où es-tu prête à aller pour la famille et le clan?
Tu vois, ça dépend des situations. Si t'es dans des situations de guerre, par exemple.
Légitime. J'ai le sang, quoi. Ouais. Enfin, moi, je suis très clanique, donc en fait.
Ouais. Daniel?
Non mais moi j'ai tué déjà pour
être ici.
Pour être là, j'en ai buté des gens aussi.
Ah bah merde, Boccolini, Jordano, Manoukian, tout le monde. Ah bah tu te montres. Julien, santé. Ah Julien.
Oui.
Alors là on arrive.
Oui,
le clan.
Encore avoir une musique d'angoisse que j'ai grandi en Corse. Absolument pas. Moi c'est la loi. Merci beaucoup.
Ta meilleure vanne depuis longtemps.
Meilleure vanne.
Ah ouais là.
Mais tu déposes là. Hold de là.
Oui, bah oui, ça, moi je serais prêt à aller loin, mais parce que ce ne sont pas des actes rationnels, c'est le cœur qui parle, donc ce n'est pas prémédité et établi. En effet,
tu sais mettre l'ambiance, toi.
Ouais, c'est tard. Mais non, mais voilà, mais comme les autres, quoi, voilà, je réponds à peu près.
Ouais, moi je me suis posé la question, je ne sais pas si j'aurais le courage de tuer. Oui, c'est-à-dire dire à quelqu'un, je vais te buter, je vais te tuer, enfin, tu vois,
je ne te vois pas tuer, toi.
Avoir la tchatche, ne me cherche pas. avoir la tchatche, le bagou, et ça j'ai même été condamné pour ça, n'empêche. Je suis en train de réaliser en
le disant.
Non, je me suis battu avec quelqu'un et en me battant, pour juste justement défendre ma compagne de l'époque, en le battant et un peu, en le blessant, j'ai dit cette phrase. J'ai dit je vais te tuer, mais et puis après je suis parti et j'étais condamné.
Il est parti chercher son fusil.
J'étais condamné pour menace de mort. Coup blessure et menace de mort. J'avais totalement oublié. Je suis désolé de gâcher votre
envie de quitter cette émission. Moi.
Je ne cherche pas.
Non, mais là, il y a différentes façons. Tu parles de la mort préméditée. Je pense que personne.
Ce serait de la légitime défense pour défendre ton clan.
Non. Essayez pas de racheter un truc. Là, vous avez tous.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de meurtriers autour de la table.
Ah, mais il n'y a que ça. Céline. Vous seriez prête à quoi pour votre clan, votre famille?
C'est une bonne question. En vrai, je pense que c'est très difficile, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que je pense que. Il y a probablement dans la vie des situations qui imposent la violence. Mais je pense que c'est hyper difficile.
Et c'est pas toujours une réponse en plus à, à ce que l'on subit et à la violence. Ouais. Et on voit les victimes. Vous n'aurez pas ma haine. Enfin, je veux dire, il y a des textes quand même qui sont venus là-dessus où on répond pas à la violence par la violence. Damien Bonnat, est-ce que vous seriez capable
mais nous, on va pas jusque-là. On vend on fait essentiellement brocante. Enfin, on fait pas.
Non, non, on n'est pas dans la série. Là. Je parle de vous.
Je blague, je blague. Je sais pas non plus. Ouais, c'est toujours été une question.
Une vraie question. Ouais, un vrai problème de conscience. Ouais.
Ouais,
c'est la question qu'on se pose quand on voit des parents, par exemple, qui perdent leurs enfants parce qu'ils sont assassinés par quelqu'un. Il y a des parents qui sont capables ensuite d'aller rendre visite à l'assassin de leurs enfants, de leur d'accorder leur pardon, d'avoir un et de pas avoir envie de prendre un fusil à la sortie du tribunal.
Mais ça c'est tout à fait autre chose.
Oui,
je dirais.
C'est un froid ça.
Ah bah alors ça serait quoi
parce que là vous parlez de la presque
et après tu pardonnes
la vengeance.
Voilà oui.
Oui moi je pensais à ça depuis tout à l'heure. C'est si ma famille est
alors que moi je pense pas à ça. Moi je pense à juste des situations d'extrême urgence, d'extrême violence. Enfin tu vois de
légitime urgence.
Oui.
Où on n'a pas le temps de réfléchir finalement.
Ouais.
On ne peut pas. On va dire ça comme
ce
ça.
On a fait par contre, j'ai
monsieur le juge, on
avait,
monsieur le juge, on n'avait pas eu le temps de réfléchir.
Non, on n'a pas eu le temps de
méditer.
Tout ça n'est que fiction. Évidemment, nous sommes pour le respect de la loi et
on ne veut pas ôter la vie.
De la vie humaine, ouais, surtout.
Ouais, c'est
Céline Salette et Damien Bonnat.
On en apprend tous les jours.
À l'affiche donc de Malditos, le fan numéro 1 de Céline et Damien. Bah, c'est Oldela.
Oui.
Fan de Damien Bonnard, je suis fan aussi de Damien Beaux-Arts. Vous avez travaillé la peinture, la glaise, le fusain. Question, vous pourriez faire un truc de Daniel Morin. Je suis fan de Céline Salette. Je suis fan depuis Marie-Antoinette. Enfin depuis le film, pas depuis la reine raccourcie. Bien sûr, personne de l'époque à part Drucker n'est en vie. Et vous êtes ici pour la série Maldito, maudit dans la langue où les chips se disent nachos. C'est une série qui parle du monde des gitans. Je vais faire aucune blague, je veux encore vivre longtemps. Ouais, je suis fan de Céline Salette. Dans la flamme, vous avouez que vous êtes SDF, c'est chouette. En parler, ça file pas de maison, mais ça soulage un peu. En revanche, j'ai cherché des scoops sur Damien, c'est pas le feu. J'ai fait le one, j'ai fait la presse, rien de sérieux. J'ai fait l'état civil de la ville d'Alès, c'est pas mieux. J'ai fait des recherches, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait le McDo de Porte-Pantin. Bon, ça n'a rien à voir avec l'enquête. J'avais juste faim. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. Ouais, je suis fan de la série, d'habitude les séries me saoulent, mais dans celle-là y a plusieurs épisodes, alors c'est cool. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Oldela, avec ce petit dernier accord, comme ça, cette petite note qui traîne.
Après son triomphe à l'Olympia, ce soir, dépêche-toi, t'es attendu à Montpellier.
Un triomphe à l'Olympia, il était exceptionnel. Bien sûr, il a fêté même son anniversaire sur scène, 50 ans à l'Olympia. Mais c'était dingue.
Et du 23.
C'est pas 50 ans à l'Olympia, ça c'est...
50 ans de carrière.
Tout le public a chanté joyeux anniversaire. C'était un moment dingue.
C'était émouvant.
C'était super.
Et du 23 au 25, il fera la tournée des humoristes France Inter à Rennes, Nantes et Bordeaux.
Céline Salette, donc en compagnie de Damien Bonnard sont nos invités pour parler de cette série où il y a également Pablo Cobo, Darren Muselet, Raïka Zanavicius, Jérôme Niel, Valérie Carsanti, avec cette série où le point de départ, en fait le point de départ est très simple, très sobre, des inondations, une fête foraine qui est dans une zone inondable et donc problématique, et là il va falloir déménager. Et à partir du moment où on déménage, ben, il y a des secrets de famille qui peuvent ressortir, il y a des situations qui étaient bien planquées sous le couvercle depuis un certain temps, dont on ne parlait pas, avec lesquelles on s'accommodait, et là, tout va ressortir, et tout va péter.
C'est ça, Céline ? Ouais, c'est hyper bien résumé. Le point de départ, l'idée, c'est de prendre Jean-Charles Hue, qui est un cinéaste d'auteur un peu pur qui a filmé la famille Dorkel pendant une dizaine d'années, le monde des voyageurs et qui donc est baigné dans ça, c'est son monde.
Et Mange tes morts, qui est un titre, mais qui est aussi une expression beaucoup employée dans la série, le Mange tes morts, ça vient très souvent.
Et ben oui, l'idée c'est de l'amener lui dans les codes de la série, et puis et ça fait un choc assez... assez incroyable.
Oui, parce qu'il y a la beauté cinématographique, il y a la situation, il y a vraiment une ambiance très très western, parce que déjà il y a tous les codes du western, le paysage, les animaux, les chevaux, les deux clans, les guns dans tous les sens. Même si honnêtement, ça pétarade pas tant que ça.
Non, pas tant que ça. Mais c'est tout est des paysans aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des angles dans les cadres et on voit des choses qu'on voit pas souvent. Donc en fait, tout d'un coup, on est aussi tiré dans une sorte de situation un peu irréelle, tellement c'est loin de ce qu'on connaît.
Ouais, et en même temps, l'arène, c'est-à-dire le monde des voyageurs, il est aussi hyper, presque documentaire, un peu réaliste.
Il est très codé, en tout cas.
Ouais. Il
y a des principes, il y a un langage aussi. Il y a du poucave, du marave.
Il s'appelle ma mère,
du dicave,
mon frère, mon fils. Il y a quelque chose de très limite qui relève du théâtre antique, en fait. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la parole donnée, très très fort. Donc on se retrouve dans des textes qui ont des millénaires quasiment dans les dialogues.
Et justement, comme tu parles du théâtre antique, référence à Roméo et Juliette. Ouais. C'est-à-dire qu'on a deux clans que tout oppose, ou qui peuvent s'opposer en tout cas, avec une fille d'un clan qui aime le garçon de l'autre clan. Est-ce que les clans vont se rapprocher, vont fusionner entre guillemets dans une même fête foraine sur un même terrain, ou au contraire ça va être la foire d'empoigne? C'est un véritable suspense. Ouais. Il y a beaucoup de secrets de famille, et pas du côté que d'une famille. C'est Amaya et Torres. Hein, ce sont les deux familles qui s'opposent.
Vous êtes une matriarche dingue. Une matriarche qui décide de tout, qui est un peu... qui calcule, qui a toujours un petit coup d'avance.
Parce que c'est la femme du taulier qui est partie en cavale.
Ouais, c'est ça. Et c'est un peu, je pense que c'est un peu fictionnel dans le monde des voyageurs. Hein.
Que la femme reprenne le relais,
Enfin, il y a des femmes qui ont des positions dominantes, mais je veux dire, elles ne sont pas...
Chef de clan.
Ouais, chef.
Il y a aussi donc ces fameux secrets de famille. On est dans une fête foraine, c'est-à-dire là où c'est l'amusement, le divertissement, le côté justement très familial avec des enfants qui viennent s'amuser. Et puis il y a donc ce silence. Parce que l'une des règles aussi, et ben justement, c'est ce silence, y compris d'ailleurs entre gitans de la ville et gitans des campagnes. J'exagère un peu ce schéma-là très La Fontaine. Non, mais justement, il y a un regard sur les gitans des villes qui est pas qui vont dans la cam, qui vont dans
une vie en HLM, ça qui est à l'inverse de ce que désire là-bas sa famille, en l'occurrence.
Oui, mais qui ont une autre manière de vivre, qui ont d'autres codes, et qui vont là où se trouve l'argent. Ils ne peuvent plus faire de fêtes foraines, ils ne sont plus des voyageurs, ils se sont installés, sédentarisés. Et là, c'est tout le narcotrafiquant, qui s'installe. Et d'ailleurs, ils ont un peu peur de ça, parce qu'on leur dit, vous allez être déplacés, vous allez être virés de votre terrain, mais on va vous trouver des places dans des HLM. Ouais. Et là, on passe de l'autre côté de la ligne blanche.
C'est la mort
blanche.
Pour eux, bien sûr. C'est vrai que leur clan, c'est leur racine, donc ils sont pas attachés à une terre en particulier, puisqu'ils sont nomades. Mais c'est la limite, quoi. Le bâtiment, la prison, c'est la limite, quoi.
Après, ils revendiquent la Camargue comme leur terre.
Ouais, complètement.
Ils sont pas liés particulièrement à un terrain, mais la Camargue reste quand même leur territoire, quoi. Et on sent quelque chose d'hyper profond dans le lien.
Ouais, bien sûr. Et c'est empiré par le secret de famille du côté des
Torres.
Des Torres, ouais, qui
et de Pablo Cobo, qui est donc l'un des fils Torres, et qui lui justement observe la Camargue, les taureaux, la tauromachie, la feria, comme une sorte de passion réfrénée. On sait pas trop quelle casserole il traîne, mais il rêvait d'être dans le monde du spectacle, en tout cas, et autour des taureaux. Et tout ça a été étouffé étouffé par par des affaires. Je parle de Reika Zadavicius qui est juste formidable. On a déjà cité son nom pour Le Clapiche où elle joue également dans ce formidable casting de Clapiche. Mais elle est solaire. Elle représente aussi une autre génération qui veut pas forcément respecter tous les codes, d'attendre le mariage pour ne plus être vierge, de respecter l'ordre du patriarche. Et c'est vous, Damien Bonnard, qui joue son père.
Ouais, des règles, effectivement.
Très machiste, hein.
Très, très vieille, ouais. Ouais. Très machiste, très misogyne, très vieille. Enfin, une vieille pensée, quoi.
Oui, elle est largement majeure, sans abuser. Je crois qu'elle a une vingtaine d'années, mais vous lui confisquez son portable, quoi. C'est-à-dire
c'est horrible.
On est dans des situations très, très particulières. Et y compris, les femmes mangent à un coin de la table, les hommes mangent à un autre coin de la table. Est-ce que ça, c'est étayé par la réalité aujourd'hui des gitans?
Ça les a pas choqués, en tout cas. Ça les a pas choqués.
C'est vrai.
Dit... Ouais, et autant il y a des fois, ils nous ont dit ça, non, ça, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas faire ça. Autant là, vraiment, ils étaient. Enfin, ils étaient plutôt.
What else?
Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, c'était ok, quoi.
Il y a une scène, justement, sur le plan de table qui est incroyable, une sorte de banquet organisé. Les hommes s'installent à table, puis les femmes, et puis s'il y a plus de place pour certaines femmes, et ben, elles restent debout. Et pareil pour le plat. Le plat commence en tête du buffet, on se sert, et arrivé à la fin, il n'y a que des restes, bah ouais. Et puis on se tait, et puis on dit rien.
Ouais, bien sûr.
Et on ne dit pas la chute du banquet, parce que ça, c'est juste le point de départ. Il n'y a rien de. À part la tradition, il n'y a rien de particulier dans ce que je raconte. Par contre, ça devient un vrai twist, un vrai tournant aussi dans la série. C'est super, en tout cas. Est-ce que vous avez kiffé jouer ce western moderne, entre guillemets, de jouer un peu les cow-boys du 21e siècle?
Ouais, moi, c'était. Mais on a vraiment éprouvé dans le sens de l'épreuve de la Camargue aussi, de tout ça, enfin qui était mais un apprentissage à plein endroit. Moi je suis devenu cavalier, j'avais jamais fait de cheval.
Non.
Si. Mais parce que en même temps j'étais avec Jimmy Covacci qui joue le cousin que je veux marier à ma fille, mais qui lui montait à cru et tout. Je me dis mais ils sont fous. On consultait beaucoup aussi les gens du voyage qui travaillaient avec nous, parce que pour être juste, dire les bonnes choses. Ouais. Et du coup, on les rééquilibrait tout le temps.
Et ce dialogue, donc, c'est alors, dicave, ça veut dire regarder, c'est ça? Poucave, balancer, marave, tuer, enfin, c'est ça, il y a une langue.
Il y a plein de mots,
j'ai dit. Ouais.
Mais il y en a plein qu'on utilise d'ailleurs sans le savoir, mais il y en a énormément.
Ouais. Mais c'est pas
l'argot. Même bonheur, je crois que c'est un mot, j'y trouve.
Ouais. Évidemment, j'aurais dû penser avant.
Je m'étais imprimé un dictionnaire comme ça. Après, suivant les origines des gens du voyage, tout ça, suivant les provenances de là où ils arrivent, il y a encore d'autres mots.
Bien sûr.
Il y a le langage manouche, il y en a plein.
Céline Salette avec Damien Bonnard sont nos invités jusqu'à 12h30. Pablo Cobo, il est impressionnant parce que les deux personnages, les deux gamins, enfin vos deux fils,
ils sont géniaux.
Pablo Cobo et la reine muselée. Et je l'ai déjà dit, mais je veux bien répéter. Voilà, Reika Zadavicius. Mais non, là où ils sont impressionnants, mais comme vos personnages, mais on a plus l'habitude de vous voir et de vous suivre dans vos différents projets. Là, il y a comme une espèce de morphing, c'est-à-dire leur visage, leur comportement, même la position du corps, la manière dont Pablo se tient au début du film et la manière dont il se tient à la fin évolue totalement comme son personnage, comme finalement ses sentiments aussi. Et on va de révélation en révélation. C'est le genre de série, personnellement, moi je l'ai j'ai bingé parce que c'est impossible quand vous avez le cliffhanger à la fin d'un épisode de se dire non, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe derrière, mais je meurs d'envie de savoir ce qui se passait derrière.
Il y a 7 épisodes.
Il y en a que 7, j'ai envie de dire.
C'est honnête, ça.
Et c'est
d'un
sur
coup.
Max France, ça s'appelle Malditos. Voici Lisa Delmoitier. Bah parce que vous, Lisa, vous n'auriez pas fait une série comme ça sur les Gitans.
Non. Je vous avoue que moi, je suis un peu refroidie du mode de vie des gens du voyage depuis l'épisode Kenji. Pas le tir dans la caravane, non. Je parle d'un épisode bien plus traumatisant, le 18 août 2024.
Qu'est-ce
on se souvient tous où on était le jour de la sortie de son tube andalouse. Quel trauma. Impossible d'y échapper. 10 ans plus tard, je fais encore des cauchemars la nuit, dans lequel je suis nomade en Andalousie. Je fais et défais des valises à l'infini en buvant du gazpacho. Puis je me réveille en sueur et tout va bien, heureusement. Je suis dans mon domicile fixe et je bois de la minestrone. Deux soupes froides, des imaginaires si différents. Parce qu'on est dans la communauté des gens du voyage avec la série Malditos, on l'a dit, on est en Camargue, on a du sable, du sel, du sale. Je comprends toujours pas que l'Office du tourisme de la région ait refusé mon slogan « La Camargue, litière de l'Hexagone ». Cette incapacité des gens à penser « out of the box », hors de la litière, en français justement.
Évidemment.
Alors, je déconne, bien sûr, c'est quelle région splendide, la Camargue, c'est fou. Franchement, ça fait du bien de sentir cette ambiance de western, de clans qui s'affrontent dans de grands espaces, mais en France, pour une fois. Oubliez le western spaghetti, moi je dis vive le western aioli. Voilà, c'est une version sans gluten. Et dans ce western aioli, qui c'est qu'elle a ? Ben, il y a vous, c'est une salette. On l'a dit, vous essayez de sauver votre clan en demandant refuge à celui de votre personnage, Damien, qui devrait peut-être penser à bosser son sens de l'accueil. Hein. Je veux pas, un petit... franchement, ma meilleure pote a regardé la série, elle m'a dit top, mais enfin, un bonjour lui écorcherait la gueule.
Oh non.
Et il faut savoir que ma pote, dans la vie, est porte de prison. Hein. À mi-temps, le reste du temps, c'est Elisabeth Borne.
Oh mal perdu.
À vrai dire, je connais pas du tout la culture gitane, mais c'est assez fascinant de l'extérieur, parce qu'il y a une impression de liberté, de vie hors système, mais en même temps, il y a le poids des coutumes, de la loyauté qui paraît encore plus emprisonnant que notre système. Moi, certes, j'ai une boîte aux lettres, mais enfin, ma famille me pousse pas à épouser quelqu'un de mon clan, quoi. Voilà. En même temps, vu la gueule de mes cousins. Comme quoi, une communauté où tout le monde a les dents de traviole et un œil qui démerde à l'autre, ça vous libère d'être addition. Hein. Il y a un moment, on se dit, on va ouvrir le clan génétique, là. Ma famille était là, tu sais quoi, Lisa, envole-toi. Hein. On préfère que tu nous trahisses plutôt que tu nous pondes un gosse de plus avec les oreilles tellement grandes qu'elle capte Al Jazeera. Mais c'est plus que ça, la communauté des gens du voyage. C'est compliqué d'en parler sans tomber dans les clichés, mais la série les explore. Justement, un cliché que j'ai, moi, par exemple, on l'a dit, c'est que ce sont des communautés typiquement très patriarcales, très macho, donc extrêmement différentes de la nôtre. Comme quoi, dans le chaos de l'univers, l'être humain, c'est constante. Hein. Il y a des peuples qui voyagent, d'autres qui construisent des villes, il y en a qui mangent de la cervelle de singe, d'autres qui mangent des escargots, mais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en penthouse ou en roulotte, qui c'est qui décide? C'est celui qui est la plus grosse. Et je parle pas de la roulotte. Nagui, range ta caravane. Même si, j'avoue quand même qu'un mec qui débarque chez moi dans sa caravane Anderson Mobile Estate modèle Hollywood,
alors
le monstre pèse 40 tonnes. À une salle de sport, un bijou de maison mobile, Will Smith et Stallone en ont une, figurez-vous, mais comment vous dire, le gars débarque avec ça, il m'appellera pas porte de prison, disons ça comme ça. Mais la série met à mal ses préjugés sur le côté machiste des communautés gitanes, parce que dans le cas du clan de votre personnage, Céline, ben c'est une femme qui est aux commandes, elle ment, elle domine, quel kiff, j'adore les femmes qui mentent. Oh là là, vous savez quoi, je suis inspirée, je suis une femme mais je vais mentir, cette chronique n'est pas terminée.
Merci Lisa Mathieu. Alors oui, il y a certes ce côté très patriarcal, très machiste dans la série, mais il y a des valeurs aussi qui sont montrées. Est-ce que ça, c'est pas finalement ce que on aura tout à l'heure Jean-Charles Hu, auteur et réalisateur de la série, mais c'était pas aussi ce qu'il avait envie de montrer? Une vie faite de principes. Alors, ils sont peut-être pas tous...
Je pense que en tout cas, ça en fait partie. D'ailleurs, la religion aussi, plein de choses. Mais moi, je trouvais que,
les croyances, c'est vrai, elles sont très présentes.
Et autour de mon perso, ce que je trouvais drôle, c'était quand même de s'amuser à le fissurer quand même. Enfin, c'est qu'il est quand même... Enfin, ce qui est très beau, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des moments... Enfin, il en prend un peu plein sa tête, et tant mieux.
Il l'en prend. Oui, enfin, il y a une manière très très intelligente avec laquelle les femmes autour de lui influencent ses décisions. Lui, il continue de croire que c'est l'homme, c'est le macho, celui, la maison, celui qui décide de tout. Mais en fait, ce sont toutes les femmes qui décident autour de lui.
Il a terriblement besoin d'elle.
C'est ça, carrément. Et le personnage de Reka est joué par Reka Azavicius est solaire. C'est-à-dire qu'elle est, elle est belle comme tout, et c'est la gitane, la fille protégée, adorée par son père, et qui en même temps sera la faille par laquelle il risque d'être soit affaibli, soit se sentir trahi. Enfin, mais on se retrouve avec des codes, en effet, du théâtre antique, avec le mariage forcé, avec les Capulet, Montaigu, c'est Roméo et Juliette aussi, des temps modernes.
Il y a chez Jean-Charles, je pense aussi une fascination chez les voyageurs pour leur dimension Epic, ils sont dans une forme de précarité, mais pas dans le sens financier. Je veux dire précarité, instabilité, quoi. Enfin, je veux dire le nomadisme. En fait, c'est moins sécurisant que le être sédentaire, être installé dans des maisons. Ils ont beaucoup plus de force et tout ça. En fait,
ils sont pas vraiment. Ils sont plus nomades, quoi. C'est-à-dire que là, ils sont installés dans des mobiles.
Oui, ça reste précaire.
Mobile, quoi. C'est précaire. Je suis d'accord. Ouais, c'est dans la boue, c'est dans des terrains vagues. Il y a des problèmes d'eau, d'électricité. Et d'inondations, on est d'accord, mais ils ne passent pas d'une ville à l'autre.
C'est vrai,
c'est
mais
pas la fête
même,
foraine comme on peut l'imaginer.
Ouais, mais ils ont quand même la culture d'être hors de la société, c'est-à-dire qu'ils sont pas ni protégés par la société d'une certaine façon, ni enfermés par la société. Ils sont quand même.
Mais il y a tout un réseau où les gypsies se parlent entre eux.
Bien sûr,
que ce soit ceux des HLM de l'autre, et puis ils sont tous cousins de l'un de l'autre qui reviendra d'Espagne un jour. Enfin,
c'est ça.
Il y a une ramification qui est assez intéressante. Et impressionnante parce qu'ils arrivent à respecter tout leur code et en étant alors border pas border, ça reste un thriller, c'est suspense, ça veut pas dire que tous les gitans sont forcément dans de la magouille, du détournement, une absence de déclaration, il fallait bien créer un suspense, créer des
tensions. Et puis
un rapport
à la parole donnée quand même, il y a un rapport au code d'honneur, il y a quand même des valeurs ancestrales, je trouve qu'ils sont en effet.
Je le dis à la famille en fait, qui est un truc de toute façon très fort, enfin nous qu'on observe forcément, mais et vraiment enfin on en parlait l'autre fois, c'est que c'est comme il n'y a pas de lien spécifique à un territoire, il y a le seul lien c'est ensemble et c'est toujours, mais c'est assez beau à voir, parce que même pendant le tournage des fois de voir quelqu'un s'inquiéter parce que pour vérifier que tout le monde est bien là à table, enfin c'est des trucs juste de savoir que tout le monde, toutes les personnes de son clan sont là. Et c'est
à sa place aussi.
C'est des liens très forts.
Le plan table, on sent que celui qui mange à côté du patron a plus de pouvoir et ça va en.
Oui, il y a tout dégressive. Ça. Les
comme
même
dans toutes
des
les
enfants.
J'ai envie de te dire. Ouais. Regarde un plan de table du dimanche, tu remarqueras les.
Tout le monde a sa place.
Tout le monde a sa place.
Et puis même des gens qui sont pas encore là. Moi, j'avais vu un autre film qui s'appelle Sixième Enfant. J'avais vu un jeune, je sais pas, qui avait une vingtaine d'années. Qui était tatoué vraiment partout, et il avait juste l'avant-bras là qui était vierge. Et je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit c'est pour les prénoms de mes enfants, qu'il n'avait pas encore, mais c'était déjà prévu.
C'est joli.
Il y a tout un truc sur la famille, enfin, de toute façon, c'est très présent.
Cette série portée donc par Céline Salette et Damien Bonnard qui sont nos invités, il y a donc également Pablo Cobo, Darren Muselet, Raïka Zanavicius, Karima Amarouche, Valérie Carcenti, elle a un petit rôle entre guillemets, mais clé également, surtout en lien avec la Camargue, Jimmy Covacci, et puis après alors Sarah Barouk, Jenny Covacci, il y a même un côté très caniste et familial, je me rends compte là dans les liens. Frédéric Dorkel, Jason François, Wilson Eschbauer, Nino Hué, on parlera avec Jean-Charles de la présence d'un membre de sa famille au casting et de ce passe-droit qui est absolument honteux. Il y a également Neil Lillamant, Juliana Vogue, Maria Rodriguez, Giuseppe Molino, dans le clan des Amaya face au clan des Torres. On en parle jusqu'à midi et demi, on recevra tout à l'heure Jean-Charles, mais d'abord, voici Thérèse
qui est Thérèse.
Oh, d'où Jésus, ces applaudissements.
Vous êtes venu nous donner votre avis sur l'élection du pape, c'est
absolument,
ça?
Absolument, mais ces applaudissements, c'est la première fois qu'on me cueille de la sorte. D'ordinaire, quand je vois des mains se joindre entre elles, c'est pour prier ou pour se protéger des coups. Alors vraiment, je suis pénétrée d'émotion, surtout que ce bruit-là... Je ne l'ai pas entendu depuis ma dernière action de grâce avec l'abbé Pierre.
Oh,
mais oui, nous étions très bons camarades. Je le surnomme même l'ami Pierrot. Combien de fois m'a-t-il prêté sa plume pour que je ravive sa chandelle morte pour l'amour de Dieu ? À tel point qu'il entrait en moi sans frapper et souvent par la porte arrière. Voilà pourquoi lui ne m'appelait pas Thérèse mais Terglaise.
Oh.
Effectivement, oui. Comme le disait feu mon grand-père Guillaume Clovis Charles-Marie, même le Vatican a parfois la fumée brune qui lui sort de la cheminée. Et oui, nous filons ici une abjecte métaphore scatophile, ma foi, cela plaira aux pédérastes. Et je parle de vos auditeurs, pas du clergé. Eux écoutent Radio Courtoisie.
Quelle grâce d'être invité ici bas dans le sacro-sainte France intermittence où tout est rouge comme, où tout est rouge comme l'enfer. C'est un peu comme pèleriner à la Mecque, ma foi. Surtout quand on vous regarde, Leïla Kadour et Nagui Infami. D'ailleurs, en parlant de fruits pourris qui gâtent la corbeille, je vous ai ramené des pêches de mon jardin et Dieu nous en préserve, celles-ci sont blanches. Allez-y, mes enfants, servez-vous. Alors, elles ne sont pas encore mûres, mais ma foi, c'est comme ça qu'on les aime à la paroisse. Hein. Allez, mettez-moi la main au panier, pas de zizi, allez-y avec les doigts. Comme le disait mon vieux cousin Baudouin Mailleux, Ernest Marie, qui avait été éducateur infantile au sein de l'institution de Notre Bonne Dame de Bétaram, c'est ainsi que jeunesse se forme, avec les mains. Mais oui, les beaux jours sont revenus. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. En parlant de donner des pêches, mangez mes fruits, mes enfants. Ils ne sont pas défendus. Allez-y jusqu'au noyau. Tapez-vous la glotte. J'ai la nectarine juteuse, Daniel. Elle va vous exploser en bouche. Oh, prune vierge. Oh, mais c'est la rose désarrosée. Oh, regardez ça comme j'ai mouillé. Une vraie grosse pitié. Oh là là. Bon, je dévoile rarement mes tours, mais comme nous restons dans la thématique du fruit déguisé, il s'agit tout bonnement d'une poire à lavement.
Oh non.
Très pratique pour se dessabler le coquillage. Et quand vous êtes en transit à Saint-Jacques-de-Compost, d'une Saint-Pierre-de-Coux, elle se recycle, elle fait également office de gourde. Et oui, allez, glou, une poire anale pour la soif. Encore un peu d'eau, Laura. Allons, ça va très bien. J'ai même eu la délicate attention de nettoyer les pêches avec avant. Bref, vous vouliez l'avis d'une bonne crétine sur l'érection du nouveau pape.
L'élection.
Eh bien, entendez-moi, je suis partagée, vous dis-je, fendue en deux comme ma grosse pêche.
C'est pas vrai.
Car rien ne me réjouit plus qu'une fumée blanche qui sort d'un conduit. Et pourtant, fallut-il que le pape soit à nouveau progressiste. J'avais pourtant prié pieusement pour que l'issue soit différente, mais ma foi, les voies du Seigneur sont impénétrables, contrairement aux enfants de cœur. Parfois, l'on perd nos points cardinaux et l'on s'égare du droit chemin, comme quand le conclave de la bande originale élit une nouvelle humoriste et que son choix s'attarde sur cette pécheresse de Rebecca Balestra, qui, je le confesse ici, est d'une vulgarité sans borne. Cette helvétique hérétique dépasse toute frontière. Mais il est vrai, et c'est malheureux, elle restera toujours moins trash que ce qui se passe derrière les murs de nos institutions et dans le derrière de vos enfants.
Ah oui.
Oh, merci, wow. Thérèse. Merci Thérèse. Rebecca Balestra.
Alors Rebecca ou Thérèse, en tout cas le 2 et 3 juin pour son spectacle Olympia sera au Petit Saint-Martin ou seront au Petit Saint-Martin.
Elle avait mis
à Paris.
Oui, à Paris.
Elle avait mis un pare-brise en fait pour se protéger
des intempéries,
de business, n'est-ce pas. La musique est présente dans cette série Malditos. Complètement dans le western. Et puis il y a aussi des chansons qui font partie de la BO.
Aline pour qu'elle revienne.
J'adore le moment avec Patti Smith. Et dans cette tension électricité, dans ce thriller western autour du monde des gitans. La mort est très présente quand même, il y a beaucoup de, on va dire, de disparition, voilà, et de règlement de compte, mais...
Il y a aussi l'engrenage de la violence, en fait, qui les prend, et ce que moi je trouve assez beau, c'est qu'en fait, même cette violence, elle n'est pas traitée de façon, elle n'est pas galvaudée, en fait, ça, c'est difficile pour eux aussi d'entrer en violence, et c'est pas simple, c'est pour ça que vous disiez, ça tire, mais ça tire pas, tout va non plus, c'est pas... ça reste un film où les enjeux de vie et de mort
sont pas un go-fast avec des gangs, des narcotrafiquants qui tirent à tout va sans se soucier, mais si une limite est franchie,
ils sont contraints de...
Voilà. Et puis il y a l'honneur de la famille, il y a l'honneur du clan.
Il y a le secret.
Il y a les fameux secrets de famille. C'est vrai que c'est difficile aussi de raconter et en ménageant le suspense. Ouais. Damien ?
Non, je pensais à la violence. Je trouve que c'est très intéressant comment Jean-Charles l'a mis en scène aussi, ou avec Cécilia aussi qui a réalisé quelques épisodes, mais c'est de finalement, effectivement, avec ce côté western, enfin des plans fixes, la plupart du temps, avec des plans séquences, où il y a de la violence, mais comme dans les westerns, en fait, de loin, comme ça, où on peut suivre de l'action, mais sans que ça soit... c'est pas la caméra qui bouge ni rien, c'est vraiment des plans installés avec quelque chose qui se passe dans l'écran et qui est violent, enfin... Je trouve ça hyper, hyper intéressant.
Cette Le monde gitan vu de l'intérieur, on va l'évoquer avec Jean-Charles Luc, qui est notre invité. Maldito, c'est sur Max. On continue de parler et de parler musique avec Céline et Damien, notamment. Alors, j'adore ce titre, Céline, mais j'adore ce titre. Oh, Black
Betty, bam, blam. Whoa, Black Betty, bam, blam. C'est pas moi qui
l'ai
fait.
Ah, c'est pas vous qui avez choisi ?
Si, j'ai choisi. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, j'aurais adoré dire.
Ram Jam Black Betty.
C'est dément.
Écoute la batterie. Ah, ça joue. Ça vous renvoie à quelle image cette musique dans votre vie ?
C'était quand déjà l'année ? Je ne me rappelle plus.
94. On est en 94-95. Tout enfant. À peine né.
Ado.
J'ai 14 ans, ouais, bah je rentre au lycée. C'est trop bien, c'est là que je commence à faire plein de théâtre. J'allais dans. Trois fois par semaine, j'allais dans un espèce de hangar à Talence, à côté de Bordeaux, où il y avait une espèce de troupe de jeunes de 30 ans qui faisaient du théâtre, hein, hyper inspiré par Mouchkine, très poétique, un peu fou, libre. Et eux, ils donnaient des ateliers, et donc on était là de 8h à minuit. Et c'était, franchement, j'avais 14 ans, mais j'étais un peu la plus petite et tout, mais c'était
mais
vraiment...
ça, 8h à minuit, l'école ?
Non, mais ça allait, enfin, je veux dire, à 14 ans, tu peux te dormir à minuit et te lever à 7h, ça va très bien. Mais en vrai, c'était incroyable, quoi. Et c'est là, il y avait une rampe de lumière, un rideau rouge, dans cet espace un peu vide, quoi, dont parlait Peter Brook, que j'ai compris qu'en fait, ce serait ma vie, c'est-à-dire que tout était possible là-dedans. Tout était possible. On étudiait des textes, c'était trop... Franchement, c'était une expérience dingue, je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de rencontrer, comme j'ai eu la chance de le faire tôt, un espace de recherche, quoi, pour...
Une passion, déjà.
Ouais.
Ouais. Que ce soit le théâtre, le cinéma...
Mais tu sais que ça va être infini, c'est-à-dire que c'est tellement grand que ça ne s'arrêtera jamais. Tu ne t'arrêteras jamais de chercher, quitter à l'intérieur de ça, ou tu ne t'arrêteras jamais de grandir.
Est-ce que vous avez douté un moment, dans une interview dans Libération, vous racontez qu'à vos tout débuts, le cours de théâtre, il y avait une jeune femme très belle, rousse, les cheveux courts, qui attirait tous les regards, et que vous aviez l'impression à côté de ne pas exister.
Ça, c'était quand j'étais au collège, ouais, mais j'avais pas de sein, pas de marque, j'habitais à Arcachon, enfin, je veux dire, j'avais beaucoup de handicap. non, mais c'est vrai,
en revanche, quand... dans un cours de théâtre, est-ce qu'on a besoin d'être avec une marque sur...
Non, c'est vrai.
D'avoir une poitrine, non, mais je veux dire, voilà.
Ça peut aider, déjà, non, je veux dire... D'une part, ça peut aider pour se faire remarquer. Non, mais c'est vrai que, du coup, j'avais l'habitude de... c'est là que j'ai commencé à essayer de faire rire, parce qu'en fait, t'as besoin d'être remarqué, t'as besoin
d'être vu, d'exister.
Damien Bonnard, dans ces années, je le rappelle, 94-95, vous écoutiez... Was so broken. Björk. C'est plus délicat, déjà.
Avec un immense guitariste espagnol.
Raimundo Amador. Et là, Leïla, on est toujours à l'école ?
Au Beaux-Arts de Nîmes, avec là aussi peut-être la sensation d'avoir trouvé son espace, comme le disait Céline. Et vous, c'est en souvenir de votre grand-père ?
Oui, c'est là que j'ai... Mais moi, c'est là où j'ai compris que finalement, rien ne serait possible. Mais...
Ah, c'est vrai.
Non. Ouais, j'avais 17 ans, un truc comme ça, parce que je suis rentré au Beaux-Arts assez jeune, parce que j'avais pas fait de lycée ni rien. Mais ouais, je suis rentré avec un... Parce que j'avais pas fait grand-chose. Hein. J'avais fait une prépa avant, mais... Parce que j'avais pas le bac, donc fallait une équivalence. Mais j'étais rentré avec un dossier qui parlait essentiellement de mon grand-père, parce que mon grand-père était fondeur d'art et souffleur de verre. Donc il faisait du bronze et du verre, donc j'ai grandi un peu là-dedans. Quand j'étais petit, je passais mon temps dans l'atelier. Je l'ai pas connu longtemps, parce qu'il est mort quand j'avais 10 ans, mais j'ai aimé ce...
Et vous avez soufflé déjà? Vous avez déjà...
Ouais, je l'ai fait après, avant de faire les Beaux-Arts, j'ai été employé, comme ça, ce qu'on appelle gamin, quand on est assistant souffleur de verre. Je l'ai fait quelques temps, mais mon grand-père, il le faisait plus du coup de... Il faisait des pièces artistiques, on va dire, des sculptures. Et après, là où j'étais, c'était plus... On faisait des lampes.
Une verrerie classique.
Une verrerie.
Donc, vous avez grandi en Camargue?
Pas du tout.
Bah, Nîmes.
Oui, mais... ouais.
On est pas loin.
C'est à côté, ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai passé 5 ans.
Pas du tout. En fait, je suis de la... Dents, comme ça, mais... Non,
mais non, parce que je l'ai découverte pendant la série. La vraie... Je connaissais un peu Avignon, Arles, tout ça, mais... Sainte-Marie de la Mer, mais ouais. j'ai jamais passé beaucoup de temps. Mmh. Mais c'est vrai que je suis né à Alès, mais je suis resté 2 ans, on est parti. Je suis revenu pour les Beaux-Arts, mais j'ai appris plein de choses aux Beaux-Arts, mais c'est aussi un endroit où je me suis peut-être censuré aussi, parce que des fois, je sais pas, à vouloir rentrer dans le moule du truc.
Se permettre de faire des choses en disant est-ce que c'est pour moi ou pas pour moi.
Ouais,
Une sorte de timidité, de gêne.
Je sais pas, puis surtout peut-être jeune aussi. Enfin, 17 ans, c'est jeune en fait. Et ce que je sais que ce qui me manquait à l'époque, c'était ce que j'ai pas eu au lycée, c'est la philosophie, par exemple. Mmh. Donc c'est des choses que j'ai rattrapées.
Vous avez vu ce moment d'illumination, d'envie dont Céline parlait tout à l'heure. Peut-être plus tard, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez dit là, j'ai ma place, je sais que je suis fait pour ça.
Bah, je l'ai eu déjà en allant faire les Beaux-Arts, parce qu'effectivement. Moi, j'étais faire les Beaux-Arts parce qu'en fait, je faisais rien du tout. Et mes parents m'ont dit, c'est pas un hôtel ici. Donc, si, en fait, si tu fais rien de ta vie, tu vas pas manger gratos et habiter gratos. Donc, soit tu t'en vas, soit tu fais un truc qui compte pour toi et là, on sera là. Donc, j'ai vite pris une décision pour pas finir la rue. Parce que ça me promettait de la liberté. Je pouvais t'émanciper à 16 ans.
Ça reste une bonne valeur d'éducation de la part des parents aussi.
Voilà. Mais concrètement, ils m'ont montré le papier d'émancipation à 16 ans. T'es majeur, tu t'en vas, tu trouves un appart, un boulot et salut. Je me suis dit, j'allais réfléchir un peu, je suis revenu le soir même et j'ai dit, ben, je crois que je vais faire les Beaux-Arts.
Ils vous ont réveillé.
Donc après, je l'ai eu à plusieurs moments par les Beaux-Arts, je pense que ça m'a ouvert une culture générale et une curiosité pour le monde. Et après, quand j'ai décidé de faire acteur, j'ai ressenti ce que dit Céline, j'ai ressenti sur une scène aussi, où d'un seul coup, tout était possible, où même le temps n'était pas le même. C'est qu'on se dit, tiens, je peux faire le tour 3 fois de suite, ça se verra même pas. Enfin, en fait, on marche un peu sur la lune et d'un coup, il y a une espèce de possible... Qui s'ouvre complètement.
En 2001-2002, Céline Salette, vous écoutiez. Destiny's Child, pour le plaisir de la danse, pour qu'est-ce qu'elle évoque cette musique ?
C'est trop bon. Ouais. J'étais fan de Diana Ross, mais toujours aimé moi ça. Non, mais j'adore. Enfin, toi, quand même, quand on sait que. Il y avait Beyoncé là déjà.
Absolument, oui, c'est parti des 3.
C'est dément.
Ouais.
Et à cette époque-là, là, c'est Ariane Mouchkine. Il y a Beyoncé et Ariane Mouchkine dans la vie. Et Ariane Mouchkine a été pour
c'est
vous.
Pas la, c'est pas la même Corée.
C'est pas la même Corée, mais c'est, je pense, une influence importante dans un chemin.
C'est un maître, ouais. Nous, moi, j'ai, à la fac de Bordeaux, j'étais avec un ancien acteur d'Ariane Mouchkine, Georges Bigot, qui nous a initiés à tout, quoi. Shakespeare. On est à la troupe, à l'esprit de troupe. Et après, quand je suis partie de là et pour aller essayer de faire des stages et de rentrer au Théâtre du Soleil, ben, j'avais déjà lu plein de ses bouquins et tout ça, mais j'ai rencontré cette figure incroyable, cette artiste, cette femme incroyable qui est Ariane Mouchkine. Et en fait, ben, c'était fou, franchement. Quand tu l'as fait rire, tu es au paradis. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'intelligence dans sa façon de fonctionner, une espèce de grande conscience du précieux de l'humanité, je sais pas comment dire, c'est...
Sans tomber dans la secte, il n'y a pas un côté...
J'en sais rien, bah, je sais pas, non. Moi je suis pas rentrée, donc je peux pas vous dire que c'est une secte ou pas, mais je crois pas, hein, franchement, je crois que c'est...
Non, mais c'est marrant, parce que du coup, là, ce que je disais juste avant, quand je disais la sensation de liberté que j'avais ressentie là, sur cette scène, c'était chez Mouchkine. Mais parce que j'ai fait un stage, elle a souvent donné des stages qui étaient gratuits d'ailleurs, on était genre 300 du monde entier, et on fabriquait pendant 2 mois des concoctages, donc à partir d'un thème, donc c'était la dictature la fois où j'étais, et c'est vrai qu'il y avait un truc de justesse en fait, c'est-à-dire que je rentrais sur scène avec rien dans les tripes, elle me disait non, ressort, recommence, jusqu'à arriver avec vraiment quelque chose à proposer, quoi. Mmh. Et c'était, moi, j'ai beaucoup appris.
Je savais pas que t'avais fait.
Moi, je savais pas que tu connaissais Georges.
Vous avez bien fait de venir.
Ouais. Céline, Damien, Céline, je vous présente.
Pas mal, hein.
Jean-Charles Huet nous a rejoint. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour. Vous êtes l'auteur, le réalisateur de cette série Malditos.
Bonjour, monsieur le réalisateur.
Bravo, déjà.
Salut, Jean-Charles.
Félicitations.
Ouais, bravo.
Vous avez toujours été passionné, attiré par le monde des gitans?
Ben presque, oui, presque.
C'est venu comment par fréquentation, par amitié, par simple curiosité ou
D'abord, étant enfant, par le biais du cinéma, l'avoir constaté, découvrir le monde gitan à travers le cinéma.
Dans quel film ?
Notre-Dame de Paris, par exemple. Ensuite, une série française, mais malheureusement, j'ai oublié le nom. Il y avait une super série française qui se passait au 19e siècle, et il y avait une bande de gitans dans l'affaire, dont une jeune fille qui lisait l'avenir dans sa boule de cristal, mais dans les lignes des mains, et j'avais 12 ans, 13 ans, ça m'avait absolument obsédé.
Alors, qu'est-ce qui vous attire dans le monde gitan, justement? C'est les règles, les valeurs, ce côté un peu western, cette tension, cette électricité qu'il y a aussi, que ce soit dans le jeu de séduction d'ailleurs. On se demande si draguer dans le monde des gitans, c'est aussi simple que draguer. Non, mais c'est vrai, on se dit, est-ce que je fais pas une gaffe? Est-ce que je ne vais pas justement, je parlais de Roméo et Juliette, dans une famille ennemie, rencontrer quelqu'un? Il y a une électricité permanente.
Oui, ça c'est dangereux, ouais. Draguer dans le monde gitan, ouais, ça, j'ai pas trop essayé parce que ça c'est dangereux. Mais
j'étais dans la fiction,
non,
pardon.
Non, mais disons que, bon, en dehors de la cinéphilie et de ce que colporte le cinéma ou la littérature du monde gitan depuis maintenant des siècles, il se trouve que mon arrière-grand-père était voyageur.
Ça fait partie d'une communauté.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et donc, Yéniche, comme la famille. Dorkel ou Torres, même si c'est un peu impropre, parce que Torres, tu t'appelles Torres, parce que ton mari s'appelle Torres, bien sûr. Et Damien, lui, il est plutôt du côté des Andalous. Donc aussi, la série raconte un peu des différences entre les communautés, ça c'est important de le savoir.
Vous avez découvert récemment que vous faisiez partie de cette communauté?
Non, j'avais un peu plus de 20 ans. Et je revenais d'un.
Vous n'avez pas grandi dans cette communauté?
Non, j'ai pas grandi dans cette communauté, voilà. Okay. Et j'avais fait un voyage en Inde, un peu justement sur les traces de la musique tzigane. Et à mon retour d'Inde, je vais voir mon oncle Raymond, qui est du côté d'Orkel, du côté de ma mère donc, qui était l'oncle d'Amérique de la famille,
ouais.
Et qui m'avait commandé,
très bon film aussi.
Et qui m'avait commandé une baïonnette pour mettre au bout de son fusil, parce qu'il survivait à l'époque avec sa maigre retraite du côté de Nantes, et donc il faisait du braconnage pour les restaurants locaux. Et il venait de quelques semaines plus tôt de se faire un sanglier en plein hiver là, et il croyait qu'il était mort. Il est descendu de son arbre parce qu'en fait il avait une cabane en haut d'un arbre dans lequel il se perchait plusieurs jours, plusieurs nuits pour tirer le gibier. Et il descend de son arbre et le sanglier était pas mort. Et donc il me raconte, il me dit, te rends compte, voilà, il était pas mort, il m'a sauté dessus, je l'ai terminé avec mon couteau, c'était pas évident, j'ai failli mourir.
En fait,
donc tu comprends, si j'avais une baïonnette, ce serait plus simple.
Alors, vous vivez dans un film, on est d'accord, vous n'êtes pas cinéaste. Votre vie est un film.
Ben, j'espère. J'ai couru un peu après ça, une bonne partie de ma vie.
Et qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette série? Alors évidemment,
avec ce sanglier.
On est dans une série, c'est une fiction, c'est un thriller. Il y a des clans, des secrets de famille, des règlements de compte, des valeurs. Il y a beaucoup de rebondissements. Mais vous voulez aussi être fidèle, j'imagine, au monde des gitans. Et je pense que leur regard sur la série compte énormément pour vous aussi.
C'est clair.
On n'est pas loin du documentaire par moment.
J'espère aussi. En tout cas, moi j'ai été le premier surpris de pouvoir réaliser un projet comme celui-ci. Une série, surtout pour Max, HBO.
Mais vous n'êtes pas fru... Alors, pardon, on va... Ouais. J'en parle tout de suite. Vous n'êtes pas frustré que la beauté de ces images, de vos plans séquences et des scènes soit ramenée à la taille d'un portable ou d'un ordinateur et pas sur une grande toile de cinéma?
Ouais,
la lumière est dingue, la manière dont vous filmez les animaux, les vols d'oiseaux, les taureaux en Camargue, c'est ouf, quoi.
Je fais avec mon époque, comme tout le monde. finalement, le cinéma, je l'ai découvert sur une télé. Le western, je l'ai découvert devant la télé de mes parents avant de devenir cinéphile et d'aller dans les salles de cinoche. Donc, finalement, je sais qu'on peut éprouver finalement quelque chose si c'est bien fait,
c'est
bien sûr, si c'est bien cadré, si c'est réussi.
Et c'est bien joué. Le casting est ouf, hein, aussi.
Il est dingue.
Vous vouliez opposer, entre guillemets, ou faire un doc, montrer la différence qu'il y a entre les gitans sédentaires et les gens du voyage? Parce que ils s'insultent entre eux aussi, entre gitans.
Ah ben, il fut même un temps, il se faisait carrément la guerre. Donc ça a été pendant des siècles les yéniches, les voyageurs, donc quand on dit voyageurs, donc le monde des caravanes, pour le dire vite, ça a fait la guerre avec le monde, l'autre monde, quoi, finalement, quoi, parce qu'il y avait une concurrence. Mais il faut comprendre que les yéniches donc ne viennent pas eux d'Inde. C'est, voilà. Et ils ont commencé à prendre la route. Ce sont des gens qui étaient de, qui, en majorité de l'ancienne Allemagne. C'est pour ça qu'une partie de leur vocabulaire vient de là. De l'ancienne Allemagne, avant que ce soit bien sûr fédéré, tout ça.
Les
Dicaves, ça c'est du vrai gitan.
Okay.
Ça vient du romanès. Hein,
okay.
Et donc du hindi indien. Et donc ça a été récupéré au fur et à mesure par les yéniches, par les voyageurs. Et aujourd'hui, on assiste, comme aujourd'hui aussi, je sais pas, dans la rue, dans les cités ou ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde a récupéré une partie de ce vocabulaire. Et parfois même, ça fait retour.
Oui.
C'est-à-dire que ça part des gitans, ça va au monde gadjo, et ensuite, les gitans récupèrent ce mot-là et le retransforment à nouveau. Donc, en fait, bon, il y a une grande transformation dans tout ça. Quoi.
Alors, on n'est plus dans le gitan voleur de poule, le cliché avec tous les gitans sont des voleurs, mais il y a quelques clans qui sont carrément des narcotrafiquants. Alors, ce qui est le cas de n'importe quelle communauté, de n'importe quelle origine et quel que soit le groupe sanguin. J'imagine qu'il n'y a pas, signe astrologique de narcotrafiquant.
On dit que le scorpion,
c'est
un gros bâtard.
Mais c'est ça.
Les poules ne rapportent plus assez, en fait. Faut bien le comprendre aussi. Les poules ne rapportent plus assez.
La phrase est dite dans la série. Il y a un moment où on n'a pas spécialement envie d'aller vers le narcotrafiquant, mais il faut faire de la thune, donc on est obligé d'y aller.
Alors, je ne sais pas si quelque part, oui, d'accord, mais j'ai toujours essayé de montrer une forme de réalité. Le mot est toujours un peu compliqué, mais non pas de documentaire, mais réalité. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que dans le monde gitan, globalement, surtout dans le monde du voyage et des caravanes, la question de la drogue, je parle de la drogue dure, pas de se faire un pet ou ce genre de choses, mais la drogue dure est très taboue. Voilà, très tabou. Parce que
là, on est dans le trafic, on n'est pas dans la consommation.
Les deux,
dans le trafic.
La consommation et par définition, le commerce de la chose. Voilà. Donc,
pourquoi c'est tabou?
C'est tabou parce que, pour la consommation, c'est tabou parce qu'ils estiment que une drogue dure est quelque chose qui vous affaiblit de trop. C'est-à-dire que c'est un truc pour pour faible.
Oui.
C'est-à-dire ils feront jamais confiance à quelqu'un
qui se drogue. Se droguent pas spécialement eux-mêmes, ils sont juste des intermédiaires.
C'est vrai.
Et ils n'y touchent pas si ce n'est pour la vendre et faire de l'argent.
Voilà, mais ça a changé depuis assez peu de temps parce que tous ceux qui sont sédentaires et particulièrement des sédentaires en cité, ce qui est pas forcément le cas de tous, tous les sédentaires. Ont aussi pris des codes qui viennent des cités, des quartiers, des banlieues, etc. Et donc, du coup, se sont familiarisés avec ça. Et donc, du coup, peuvent aussi se lancer dans ce trafic-là, tout en oubliant un peu les codes de base, finalement.
Merci d'avoir pris le temps de venir, Jean-Charles, et surtout bravo, parce que les codes du western, du thriller, du documentaire aussi, du travail que vous avez fait en respectant les traditions, le langage. On parlait tout à l'heure d'un dictionnaire, puisqu'il y a une véritable langue. Et puis cette manière de dire « mais qu'est-ce que tu racontes, ma mère, je t'en prie, mon fils, mon frère
». C'est beau. J'adore, c'est très beau, c'est très noble, très élégant.
Ça s'appelle Malditos et c'est sur Max, bravo et merci Jean-Charles.
Merci à vous.
Voici Julien. Non, c'est Laura Demange,
merci. Bon, écoutez, les gens n'aiment pas tellement les remakes un peu plus inclusifs. Vous l'avez vu, James Bond femme, bon, il n'y a plus de limite au wokisme, dirait Michel Sardou. Mais il n'y a pas que le cinéma qui devrait s'interroger. Alors cette semaine, n'en déplaise aux auditeurs de Sud Radio, j'ai décidé de moderniser une chanson, pour ne pas dire de la wokiser. Après l'homme à la moto, voici la meuf au vélo. Elle portait des sacoches, un casque de vélo, une longue cape quechua, un gilet jaune sur le dos. Sa bécane zigzaguait entre voiture et piéton, semant la colère dans la circulation. Jamais elle ne posait pied, jamais elle ne s'essoufflait. Pour être à l'heure au boulot, tous les feux elle grillait. Elle a claqué son fric dans un vélo électrique. Ça fait peut-être mal au cul, mais c'est plus écologique. Au couloir de vélo comme Nagui, elle comprend rien. Elle roule malgré que le vent soulève sa jupe jaune poussin. Dis donc mademoiselle, vous me prenez sur votre porte-bagages. Lui lance alors un gros lourdeau au virage. Elle portait des sacoches, un casque de vélo, une longue cape quechua, un gilet jaune sur le dos. Sa bécane zigzaguait entre voiture et piéton, semant la colère mais pas la pollution. Arrivée au boulot par le casque décoiffé, elle a le charisme de Bérou mais sans la célébrité. En croisant son patron, elle demande pour sa promotion. On en reparlera quand vous puerez plus la transpiration. Son ex lui fait perdre la garde des marmots quand il apprend qu'elle est trimballée dans une remorque cargo. Alors au lieu de se saouler au desktop, elle va reprendre le métro. Et maintenant sur le bon coin en promo, on trouve ses sacoches, son casque de vélo, sa longue cape qui échoue, son gilet jaune sur les dos. Car pour elle, c'en est trop, elle quitte le clan des bobos et prie pour que Dati remplace Hidalgo.
Laura de Mange.
Le 27 mai au théâtre de la Madeleine.
Quel talent!
Redis, pardon?
Le 27 mai, Théâtre de la Madeleine, à Paris.
Céline Salet, Damien Bonnard sont nos invités jusqu'à midi et demi. Nous parlons de Malditos sur Max. Laura Domange, Julien Santini, Daniel Morin, Céline Salet, Damien Bonnard. Ceux qui n'ont pas vu ne serait-ce que la bande-annonce ou ne serait-ce que les premiers épisodes déjà en ligne depuis début mai, vous leur dites aux potes, regarde, c'est un western, c'est un thriller, il y a du suspense. Qu'est-ce qui vous a marqué finalement dans cette série où il y a beaucoup d'ingrédients dont que l'on a évoqué avec Jean Charluet, le réalisateur?
Moi je dirais, regarde, c'est un truc de fou. Pour la première fois peut-être, une espèce de série dans le jus d'HBO t'amène dans le monde des voyageurs et genre c'est dingue.
Ok, Damien Bonnard.
Moi je crois, ouais, un peu comme Céline, mais aussi beaucoup par rapport à la mise en scène. Je crois que le rythme, c'est un rythme qu'on a rarement l'occasion de voir. Le montage, de pas forcément être dans des champs contre champs, enfin dans une grammaire un peu différente, mais qui me plaît.
Et l'amour sous toutes ses formes, parce qu'il y a l'amour au sein de la famille, il y a l'amour des valeurs entre guillemets de cette communauté. Il y a une histoire d'amour entre
les enfants.
Ouais, j'essaie de trouver mais tu as raison. Il y a l'amour forcé ou le mariage forcé aussi par intérêt. De réunir des clans, des familles, et de monter une espèce de une fusion,
ouais. Comme les rois de France, quoi. Ouais.
Mais non, c'est ça. Non, mais il y a surtout beaucoup d'histoires d'amour, et puis l'amour d'une mère pour ses enfants.
Y a des enjeux épiques, et puis il y a aussi vachement de trivialité, parce que c'est aussi un peu populaire et tout ça dans ce sens-là. Et donc il y a une dimension un peu shakespearienne dans le truc. Et puis c'est vraiment du cinéma, parce que Jean-Charles, tu parles du rythme, tu parles vraiment du cinéma, des plans, de la beauté des plans et tout ça, mais il y a aussi cette grande amplitude de la musique qui l'a génialement. Qui nous amène génialement à rentrer dans ce monde et lui amener une dimension de cinéma, de puissance, de profondeur. C'est vraiment une espèce de chant, quoi. C'est beau, quoi. Franchement, c'est beau, c'est profond. Et ça parle de violence, ça parle d'amour, mais ça le fait en inventant quelque chose, je trouve.
Ouais, et puis c'est quand même collé à l'époque, mais en gardant des codes justement du théâtre antique,
c'est ça,
tragédie grecque.
C'est ça, parce que c'est épique. Ouais.
Céline Salet, Damien Bonnard donc porte cette série aux côtés de Pablo Cobo et d'Arène Muselet qui sont comme Raïka Zanavicius, toute une belle génération là, très impressionnante de justesse et de tension et de tendresse et les mêmes visages. On a à la fois envie de leur sourire, de faire des hugs et puis quelques scènes plus tard, ils font super peur en disant waouh, mais il y a de la folie là-dedans, il y a dans le regard, il y a Darren Muselet, à des moments, il fait vraiment très peur.
Hein. Ouais, c'est des acteurs exceptionnels. Franchement, on a eu trop de chance de partager cette aventure parce que on travaillait avec des acteurs non professionnel, je dirais, toute la famille d'Orkel avait déjà tourné dans les films de Jean-Charles, donc ils étaient déjà habitués à des plateaux de cinéma et à jouer. mais pour ouais, toute la famille, Maya, ouais. Ouais, pour toute la famille à Maya, il y a quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas fait de
ah bah
de
y a
cinéma.
Aussi, alors il y a la famille Rodriguez, il y a la famille Cortés, il y a la famille Cano. Enfin,
c'était quand même un joyeux bordel quoi. Sur ouais. Le plateau, il y avait des centaines de personnes. Enfin, on était 100.
Mais tous liés en étant cousins, frères.
Il fallait qu'il y ait à manger pour tout le monde. Enfin, il y avait des gros enjeux. Non, mais c'est vrai. Il y avait quand même des gros enjeux et c'était pas.
Eh oui. En fait, c'était génial. Ça s'appelle la table régie, un gros enjeu sur un tournage.
Exactement, mais la cantine, la table régie. Enfin, franchement, le jour où on a compris que tout le monde n'avait pas de fromage, ça a été la guerre, quoi.
Raïka Azanavicius, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle au-delà de 1, ça joue bien 2, elle est solaire.
Ouais. J'imagine. Franchement, c'était un des piliers du plateau. Pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, mais vas-y.
Bonne imagine. Camarade, ouais, c'est ça.
Ouais, hyper bonne camarade. Non, mais surtout, en fait, on a fait beaucoup de travail de remaniement parce qu'en fait, évidemment, le script n'était pas en langue du voyage. Donc c'est comme c'était pas jouable.
Oui.
Donc il fallait retraduire quoi.
Retraduire ou même repenser les réactions tout ça. Mais Raïka elle faisait pas. Depuis le début, elle bossait comme une dingue. Je la voyais avec son scénario tout le temps. Elle était. Mais c'est une incroyable actrice. Mais de toute façon tous, moi ils m'ont tous.
Et de jouer vous, Damien Bonnard, les taiseux, les méchants, de par moments que tout se passe dans le regard.
Et dans le ventre parce que j'ai fait un gros travail sur le corps. Pour Juan.
Vous avez une gastro?
Non,
je sais pas. C'est...
J'ai un gros ventre. Non ouais, mais parce que
c'est ça le fromage.
Chez les gens du voyage, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a bien mangé, qu'on a l'argent pour manger, donc que tout va bien.
Vaut mieux faire.
C'est vrai que certains.
Les femmes, ouais, vas-y.
Ouais, disaient, quel bel homme.
Ah, c'est bon.
Parce que j'avais ce ventre. Mais
Il vaut mieux faire envie que pitié.
Ouais,
je suis d'accord.
Non, mais après, pourquoi on disait ça, on parlait de.
Je sais pas, je vous trouve affûté. Donc vous avez pris du poids et
non, pas du tout, j'ai pas pris du poids, j'ai surtout. Je me suis laissé aller, voilà.
Fallait pas répondre ça, Damien.
Moi, je parlais du regard. Non, parce qu'il y a des scènes vraiment.
C'est un travail d'acteur.
De cow-boy, quoi.
C'est pudique.
Ouais.
C'est-à-dire ce regard vers l'horizon, ce regard lointain, comme ça.
Mais c'est vrai qu'on se prend assez vite au jeu, en fait. Moi, dès que j'ai enfilé Santiago, parce que chez les Amaya, on a un style quand même très précis, qui est vestimentaire, qui est très andalou, mais donc c'est chapeau, boucle de ceinture, bague, médaille, croix,
Camarguez au pied, ouais, Santiago.
Et déjà ça. En fait, c'est
on rentre dans le personnage avec le costume.
C'est là que j'ai pu appuyer mon travail d'acteur studio sur mon corps.
Mais c'est Romain Duris qui racontait que lors d'un tournage, il avait été complètement Gadjo Dilo, complètement enchanté quoi par la communauté au point de se dire je vais tout arrêter, je vais me marier avec l'une d'entre elles, je vais partir.
Je peux comprendre, mais en vrai ça m'a d'enfiler ce costume tous les jours.
Ouais.
Ça a donné naissance à presque au personnage en fait, déjà rien que de marcher comme lui. Ça, après tout arrive.
Encore un petit quart d'heure, on va pouvoir.
Et on est dans une musique, moi, qui fait presque penser à Succession, dans cette ambiance-là un peu, parce qu'il y a aussi toutes ces histoires d'héritage, de transmission, de passation.
Préserver
de pouvoir.
Le clan, oui, en fait, ils sont dans des enjeux de survie. Sarah, elle doit protéger le secret qui lie elle, qui les lie elle et ses fils, et puis sauver le clan, l'empêcher de se faire dégager, ou en tout cas lui trouver un nouveau terrain, un nouvel endroit. Et donc ces enjeux, ils jouent fort et ils vont les conduire à la catastrophe. Sans spoiler, ça va mal finir.
Céline Salette, Damien Bonnard, oui.
C'est Frank Williams qui a composé une partie des.
Super, vachement bien cette musique.
Je ne voyais pas qui c'est.
C'est la musique de Malditos ?
Ouais.
Non, c'est qui Damien ? Arrête.
Non, mais qui a des groupes français, mais qui est aussi acteur qu'on voit dans plein de films.
D'accord.
Mais qui a fait, je crois.
J'ai pas la ref. Ok.
Mais
moi non plus.
D'accord.
Moi non plus. Personne là.
Merci Damien. À bientôt.
Non, mais
restez jusqu'à midi et demi quand même. Mais c'est Julien Santini.
Merci. Allez, merci beaucoup. Rebonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est parti pour cette chronique placée sous le signe du rire.
C'est gentil de nous prévenir.
Voilà. Dans l'ambiance. Dans la vie, j'aime bien regarder les annonces immobilières sur les vitrines. C'est une passion que j'ai et que je pratique parfois dans le 16e arrondissement. C'est là que ça prend tout son sens. Je vous explique pourquoi. Bien évidemment, je ne peux pas me permettre de les acheter, mais ce qui est important, c'est que les badauds pensent que je suis un acheteur potentiel et crédible. Pour ce faire, j'adopte une attitude précise, un air concerné. Je prends des notes sur un calepin et le tour est joué. Par contre, quand je vois des appartements à plus de 3 millions d'euros avoir un diagnostic énergétique E, vous savez, c'est les barres de couleurs différentes, ça va de A à F, et E, bon, bah, c'est très mauvais, quoi. Vous avez ça aussi sur les paquets de gâteaux, c'est ce qu'on appelle le Nutri-Score. Et un appart magnifique avec un diagnostic énergétique à chier, bah, ça ne va pas ensemble. C'est comme si je te disais, tu vas sortir avec la plus belle femme du monde, mais elle pue de la gueule, grave. Bon, honnêtement, j'étais pas sûr de cette vanne, et bon, j'avais raison au vu de son inefficacité. Franchement, j'ai la chance de faire une chronique France Inter sur papier, c'est un diagnostic A, et je fais cette vanne qui est une vanne E. C'était un running. Sinon, mardi dernier, deuxième chance que je me donne et que je m'octroie, j'étais dans le métro, j'allais passer une audition pour une radio concurrente, une radio dont les animateurs semblent aimer mon humour et qui ne s'offusque pas toutes les deux minutes de mes propos. En disant quoi ? C'est faux, France Inter, c'est super, c'est A. Par contre, j'étais vraiment dans le métro, je voyais des gens qui semblaient être en retard, courir comme des malades. Est-ce que vous les voyez, ces gens dont on parle ? L'arrogance de ces gens en retard, à qui il faut céder le passage de façon entendue. On en parle de leur attitude à ce moment-là. T'es qui ? T'es mon patron ? T'es Dieu ? T'es Nagui ? Je te dois de l'oseille ? T'es qui ? Ces gens qui bousculent tout sur leur passage. Ils ont un sac à dos sur le dos et un sac à main à la main. Et à ce moment-là, vous, à côté, merci Nagui, vous n'existez pas. Seul compte leur désir impérieux de ne pas manquer ce métro. Je ne les supporte pas, putain de merde. Ce train, ce moyen de transport, ils sont un carrefour de leur vie. Tout se joue ici et maintenant. Et vous, vous êtes témoin impuissant de leur périple. Vous ne pouvez que les aider en faisant un pas de côté, en leur laissant la voie libre. Et je remarque, quand je parle de ça autour de moi, que la plupart des gens disent « Oh oui, les pauvres, on est embêtés pour eux !» Cette empathie à leur égard, je ne l'ai pas. J'en suis dépourvu. Moi, à ce moment-là, j'ai envie de les retenir par le callback et de les empêcher, d'avancer, de faire opposition, une sorte de raffut, comme au rugby. Et plus encore, de les culpabiliser. Moi, si j'étais président de ce monde, je créerais une pièce dans les couleurs du métro, dédiée, une sorte de bureau pour gérer cette situation-là. Une pièce spécialement affrétée quand on a pris en flagrant délit quelqu'un en retard. Et en tant que gardien de cette cellule, j'arriverais avec un béret et une matraque, là. Je jouerais le chaud et le froid et je dirais alors, on est en retard aujourd'hui ? Tu es en retard ? Mais que faisais-tu lorsqu'il était 14h ? Merci Céline de rentrer en face. Que faisais-tu lorsqu'il était 14h et que tu savais qu'il te fallait partir ? Tu jouais au loto ? Tu t'amusais ? Tu t'astiquais la nouille ? Voilà, quand je disais que vous vous offusquez. Et en plus, je pensais dire se toucher la nouille et je me suis dit, non Julien, c'est vulgaire, c'est France Inter. Bien entendu, je me rends compte que je n'ai pas la bonne réaction, mais je me rends compte aussi que ce n'est pas moi qui agis à ce moment-là. C'est mon père en moi. Laissez-moi vous narrer cette histoire. Glou, 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 comme vous savez dans les films quand ils font les souvenirs.
Oui.
J'ai pas de mépris à l'humiliation, Leïla. J'ai 13 ans, mon frère en a 15. Et il me raconte cette anecdote. Il est en retard pour aller à l'école, c'est mon père qui l'accompagne comme tous les matins. Et ce jour-là, ils se font arrêter par un contrôle de police. Et la premier degré, mon père sortira à l'agent la phrase suivante. Merci, monsieur l'agent, merci, je vous remercie. Tu vois, Jean-Charles. Parce que pour la petite anecdote, mon frère s'appelle Jean-Charles. Alors, le pire, c'est que c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai très souffert, moi, souvent, parce que quand je disais mon frère s'appelle Jean-Charles, à l'école, il disait Jean-Charles, il est de la haute bourgeoisie. Et je supportais pas ça, parce que c'est mon fradé. Personne ne touche à mon fradé, hein, Gabidou. Donc, je reprends mon frère. À mon frère Jean-Charles, qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu n'écoutes pas, monsieur l'agent. Je lui disais, ne sois pas en retard, prends toujours de la marge, sinon tu ne peux pas faire face à l'imprévu. Véridique, à ce moment-là, l'agent de police aurait eu légèrement peur. C'était un continental en stage sur l'île depuis un mois. Et il a dit, c'est bon, monsieur Santini, on fera le contrôle une autre fois. Et vous savez quoi ? Pour que votre fils ne soit pas en retard ou plus encore, on va même vous escorter.
Oh,
et mon père a dit, bravo Jean-Charles, grâce à ton retard, au final, on va être à l'heure. Ce n'était pas grave, finalement. Tu n'as pas fait de faute. Alors, vous l'avez compris, mon père, lui aussi, soufflait le chaud et le froid. C'est de lui que j'ai tout appris. Et moi, je vous laisse avec cette leçon de vie. En cette fin de matinée, que vous soyez en avance ou en retard, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être dans le bon timing.
Merci. Julien.
Je voyais Monsieur Galabru. Hein.
Merci.
Ouais.
Merci Damien.
C'est un joli compliment. Et nous embrassons Jean-Charles, évidemment.
C'est gentil. Absolument. Et toutes les semaines, il est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à 19h. Et le jour, sachez-le, évolue entre le jeudi, le vendredi ou le samedi. Renseignez-vous. Ah ouais, et sinon, tout le monde le 31 mai prochain, où ça? À Ajaccio, pour aller le voir au Théâtre de l'Empire. On viendra tous.
À domicile. La série a commencé début mai. Ça s'appelle Malditos sur Max avec Céline Salette et Damien Bonnard, entre autres. Mmh. Et Rakia Azanavicius. Et nous allons évoquer d'autres...
On cherche un acteur américain. Un acteur américain qui raconte à quel point l'un de ses derniers tournages a été périlleux. Le film a été présenté à Cannes l'an passé. Il relate l'histoire d'un surfeur. C'est en tournant ces scènes-là de surf qu'il s'est mis en danger, au point de surnommer sa planche de longboard la pierre tombale, parce qu'elle était toujours dressée vers le ciel et qu'à chaque fois il a vraiment failli y passer. C'est un acteur qui a 61 ans, un américain, donc il a tourné dans Sailor et Lula, Snake Eyes, absolument, c'est Nicolas Cage qui raconte qu'il voulait reproduire une scène de surf qu'il n'a jamais réussi à reproduire, que le tournage
sans doublure,
a été...
donc.
Sur certaines scènes, oui, absolument. Que ça a été tellement éprouvant et puis que les vagues étaient tellement déchaînées qu'il a vraiment cru qu'il allait y passer systématiquement. Est-ce que vous avez un souvenir de tournage où vous vous êtes dit « Ouf, on n'est pas passé loin » ou en tout cas, ou alors refuser peut-être un rôle parce que une mise en danger et c'était pas envisageable ?
Non, moi j'ai plus de souvenirs de moments où on n'a pas le droit de faire les...
C'est-à-dire ?
Ouais, où du coup il y a des cascadeurs alors qu'on rêverait de le faire, mais parce qu'effectivement on pourrait se foutre en l'air assez facilement.
Et
mais
si vous le demandez, on vous le refuse.
C'est compliqué. Enfin, il y a des choses quand même. En vrai, il y a des choses. Faut pas.
C'est pas réaliste.
Non, mais surtout c'est. Enfin, oui, c'est pas réaliste, mais.
Entre sauter d'un immeuble.
Il y a des mises en danger qui sont pas nécessaires.
Vous, Céline?
Moi, je me suis déjà retrouvée, par exemple, sur un tournage en train de faire une cascade sur Infinity, par exemple, et il y a des trucs explosés, et il y a des petits trucs qui m'ont explosé dans la gueule, je vais pas vous mentir. Mais c'était vraiment très léger.
Mais bon.
Non, mais tu sais, parce que quand tu mets des explosifs un peu dans les sachets de trucs, tu vois, ça explose pendant la prise, mais des fois...
Moi, j'ai pas ça, par exemple, ce doigt-là,
Le petit doigt de votre main.
Parce que là, je l'ai coupé dans un film.
Ah bon, vous m'allez dire. Non, il s'est rien passé. C'est quand même quelque chose.
C'est un tendon qui s'est.
C'est tendon, mais c'est bien, ça n'a pas été amputé.
Donc vous ne pouvez plus le déplier.
Non, il
n'a pas été amputé.
Ouais, enfin,
je me suis dit, vous êtes hyper souple.
Vous ne serez jamais néo-nazi.
On
dirait
un extraterrestre.
Mais j'ai fini la scène. J'ai fini tous mes dialogues, j'ai fini toute la scène en pensant que je m'étais juste un peu coupé.
C'était quel film ?
C'était un film sur Arthur Rimbaud. Mais c'est bien parce qu'Arthur Rimbaud a fini avec une jambe en moins.
Est-ce que les scènes d'amour sont aussi délicates? Parce que là, on parle des cascades physiques, batailles, tir à blanc. Est-ce que les scènes d'amour sont aussi gênantes et dangereuses aussi? On est doublé aussi dans certaines scènes d'amour?
Oui, on peut être doublé, mais c'est surtout ce qui est absolument important, c'est que ça soit chorégraphié et que ça soit au même titre qu'une autre scène, qu'on sache ce qu'on doit. Enfin, en fait, ce qui est important, c'est que ni l'un ni l'autre dans la scène, dans les partenaires qui jouent, ne soient fragiles et fragilisés à un endroit où ils ne doivent pas l'être.
Il y a des référents à intimité maintenant.
Oui, il y a ça, mais ça, c'est très.
C'est récent.
Ça, c'est assez récent.
Quand vous avez joué dans Rester Vertical d'Alain Guiraudy, il y avait...
Non, mais par exemple, Alain, c'était vraiment un travail de chorégraphie où il disait, là, tu poses ta main là, vous vous embrassez à ce moment-là. Ouais. Pour pas être juste deux acteurs ou un actrice ou un acteur dans un lit à qui on dit, bon, bah, voilà, allez-y.
C'est pas gênant,
C'est horrible,
C'est ça, quand ça devient de l'impro, ça devient de l'intime.
Ouais. Et c'est compliqué, donc c'est que l'autre, c'est bien que tout soit chorégraphié de manière à ce que personne soit surpris de ce qui se passe et que tout se passe, enfin tout soit, c'est de la chorégraphie.
Ça a changé quelque chose, Céline? Vous dites c'est bien ça maintenant, c'est-à-dire que vous avez senti un avant et un après.
Moi, ce que je pense, c'est que ça va nous permettre d'aller plus loin. Par exemple, je me rappelle quand j'ai lu le scénario de La Polonide, Souvenir d'une maison close. Souvenir de la maison close. Il y avait une scène où je devais rattraper un camarade acteur par la bite. Et j'ai dit à Bertrand, excuse-moi, je crois que je suis pas capable de le faire, tu vois.
Si ça pète en plus.
Non mais, t'imagines.
Après, on se retrouve avec un doigt comme cascade. Ça, tendon.
Imaginez la bande originale, c'est un tendon qui a pété.
En tout cas, c'était écrit. Et donc, je disais, mais excuse-moi, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas faire ça. Ouais. Et en fait, je pense que, en y réfléchissant maintenant, si un coordinateur d'intimité a une mallette de fausse bite, par exemple, je suis tout à fait capable d'attraper une fausse bite par la main.
Ce qui est le cas dans beaucoup de films.
Et puis il y a plein de choses.
Il y en a maintenant des prothèses et tout ça. En fait,
homme comme femme d'ailleurs.
En fait, si t'as une protection, tu peux aller au feu. Tu vois, en fait, il faut juste qu'on soit. Et tu peux raconter plus loin, en fait. Bien sûr que dans la vie. tu rattrapes qui tu veux par la bite.
On en parle pour les prochains Jeux Olympiques d'ailleurs.
Mais effectivement, c'est pas rien. Et c'est même, moi je me rappelle de Guérody parce que j'en avais quand même beaucoup avec prothèse ou pas. Enfin, j'avais plein de choses à faire dans ce film. C'était un peu le baptême des scènes d'amour. Mais il avait aussi eu l'intelligence de dire, est-ce que cette scène-là, tu veux la tourner ce matin, ce soir? Est-ce que tu as envie de la voir dans ta tête toute la journée? Et finalement, de ne pas être là vraiment pour les autres scènes parce que tu t'es préoccupé par cette scène-là. Enfin, du coup, d'être vraiment dans un truc de faire attention à tout ça.
Ouais, et... d'échange intelligent.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais c'est toujours intelligent. Pardon, je l'ai fait dans le film que j'ai fait avec Laïla Bekti, quand on avait fait Les Intranquilles, on avait une scène d'amour qui était au scénario de ça, et on a commencé à la questionner pour se demander comment la montrer, comment la... Et surtout pour questionner même la nécessité qu'elle soit présente. Et en fait, on en a fait une scène où je peins cette scène d'amour. C'est-à-dire qu'on l'a... Parce que c'était un désir de mon personnage pour elle.
Donc vous avez sublimé en fait la scène plutôt que de la vivre.
Bah en fait, c'est encore même plus... Voilà, parce qu'une scène d'amour qui n'est pas pensée exactement où on ne trouve pas vraiment sa place. Enfin, c'est toujours intéressant de re-questionner les choses. Voilà, pour juste essayer de trouver autre chose.
Très bien. Après Niki, votre premier long métrage, Céline Salette, en tant que réalisatrice, vous travaillez sur, non pas un film, mais un documentaire, c'est ça?
Oui, absolument. Ça s'appelle La Lutte. Et je suis une femme qui s'appelle Sophie Abida.
Autour de l'inceste.
Ouais, bah en fait, c'est vrai que quand j'ai travaillé autour de Niki, je me suis un peu ouvert le cœur à cette réalité. Et ensuite, une fois que j'ai entendu ces histoires de mères protectrices qui, leurs enfants dénonçaient de l'inceste et elles étaient incriminées par le syndrome d'aliénation parentale en général, c'est-à-dire cette espèce de pseudo réalité inventée par Richard Gardner, qui est un pro-pédophile américain dans les années 60. Et qui est enseigné aux écoles de magistrature depuis longtemps, en fait. Hein. Le monde entier est biberonné au syndrome d'aliénation parentale, qui dit que les mères sont des manipulatrices, des méchantes manipulatrices.
Quand elles dénoncent l'inceste subi par Richard leurs Gardner, enfants, on considère aussi... que c'est les mères qui l'inventent. Ouais.
Ouais, voilà. Mais Richard Gardner, il dit aussi, par exemple, que les enfants n'ont aucun problème avec la sexualité. Si la société ne leur disait pas que c'était pas bien, ils seraient contents, quoi.
L'inceste, c'est un Français sur 10, quand même. Hein. C'est pas,
ouais,
c'est pas
c'est
un petit
énorme.
Chiffre, hein. Dans une classe, c'est 3 enfants.
Mais en réalité, en fait, on n'a pas. En fait, c'est comme si on n'avait pas le bon logiciel pour traiter ces crimes, parce que ce sont des crimes. Donc, ils laissent des traces. Il y a des indices à chercher. Enfin, je veux dire, il y a des enquêtes à mener, mais il y a rien qui est. On n'a pas le logiciel pour traiter ça. Il n'y a pas de police spécialisée dans ces crimes. Il y a rien.
Ce documentaire, on le verra quand et où ?
Je fais le plus vite possible et le mieux possible. Donc, je peux pas vous dire.
Et sur une plateforme, sur une chaîne traditionnelle.
C'est Arte pour l'instant qui s'est engagé avec nous et voilà.
Très bien.
On en est là.
On vous retrouve dans L'été de Jaya d'Olivier Meiss. Vous êtes au casting également des Furies avec Bertrand Belin, long métrage de Camille Ponzin.
Oui, absolument.
On était dans le documentaire aussi, c'est une documentariste.
Avec Lou Lamprose et Bertrand Belin.
Et vous serez dans Jupiter également, le film d'Alexandre Smilla. Quant à vous, Damien Bonin, vous êtes dans La Voix du Serpent de Kurosawa avec Mathieu Amalric qui sortira au mois de juillet.
Ouais, normalement le 16 juillet, je crois.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont trouvé notre défense du clanisme, de la violence, de l'appel au meurtre un petit peu gênant, hein. Bon, ça, ok, c'est une émission de divertissement. Mais le meurtre, la douleur et la souffrance sont aussi des valeurs auxquelles Nagui est très attaché. Voilà. Désolé pour Damien Bonnard qui a joué dans des films costauds, hein, comme Les Misérables ou des séries qui défouraillent, comme Malditos, et qui ce matin a connu une expérience bien plus dangereuse, voire extrême, en tentant d'ouvrir une bouteille d'eau. Surtout en goûtant les croissants de France Inter. Le pauvre déjà qui vient pas souvent, ça ne va pas aider. Désolé pour tous ceux qui, en entendant « Mange tes morts » dans l'émission de ce matin, ont pris ça pour une injonction pour leur pas de midi. Alors non. Non, les amis, France Inter est très orienté recyclage et circuit court, mais bon, on a aussi nos limites. Même si, il y a 15 jours, on a failli bouffer un invité qui nous soulève. Désolé enfin pour Céline Salette qui, ce matin, n'a pas pu couper de bois pendant 1h30. Alors, un peu de patience, Céline a encore une petite minute et surprise dans les jardin de Radio France, on a préparé une hache et vous pourrez choisir votre arbre. Voilà, c'est cadeau.
Merci Céline, merci Damien.
Merci de nous avoir accueillis.
C'est fini.
Ben Damien, okay. Oui, ça ne dure pas toute la journée.
Damien,
comment ça s'est passé?
En plus, c'est le week-end.
On est vendredi.
C'est une belle journée. On se retrouve lundi avec Annie Dupéré. Merci. Bonne journée.